retour en arrière sur une sur un message qui aurait dû, qui était planifié dans les premiers temps de notre série de prédications Emmanuel Dieu avec nous, ce parcours de l'évangile de Luc et qui se situe aujourd'hui au début du chapitre 5. Et nous ferons la lecture de ce passage en deux temps. Alors, ça n'avance pas. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, c'est bon, merci, j'ai la main. Merci. Je vais prendre ma Bible. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Nous reprenons la lecture là, nous arrêtons pour l'instant là où nous en sommes, et en essayant peut-être de faire abstraction de ce qu'on connaît de la suite, et de réfléchir un peu à la situation telle qu'elle se présente à cet instant. Et la scène sur laquelle s'ouvre le chapitre 5 de l'évangile de Luc a de quoi surprendre. En effet, un groupe de pêcheurs s'affaire au bord du lac de Galilée, dans le nord d'Israël. Lac de Génézareth, lac de Galilée, il s'agit du même plan d'eau. Ils sont fatigués d'avoir travaillé toute la nuit, qui plus est sans rien prendre, c'est ce qu'on comprend. Et c'est vrai qu'on ressent toujours plus la fatigue quand le travail est infructueux. Mais ils y sont habitués, c'est leur lot. Un jour, la pêche est bonne, un autre, non. Et ce sont les aléas de leur métier. Il faut, malgré cela, nettoyer les filets avant qu'ils ne sèchent, afin de repartir sur le lac la nuit prochaine. Peut-être les réparer aussi, ce n'est pas précisé ici. On peut imaginer qu'ils n'ont pas trop souffert, hein, et pour cause, puisqu'ils ont été remontés vides ou peu s'en faut. C'est toujours moins... C'est, à défaut d'autre chose, c'est au moins ça de gagner. La mention des pêcheurs descendus des barques suggère que nous sommes peu de temps après leur retour. Et probablement, c'est ainsi que je me l'imagine, le matin, puisqu'ils ont pêché toute la nuit. Et on imagine assez aisément la suite de la journée qui s'ouvre à eux, qui s'offre à eux, rentrer à la maison pour se restaurer, prendre quelques heures de repos avant de repartir sur le lac à la tombée de la nuit prochaine. Ce sont donc des hommes qui vivent chichement des maigres gains de leur travail et n'ont certainement pas de temps à perdre. Et voilà qu'un type s'approche, accompagné, nous dit Luc, pressé par toute une foule venue entendre de sa bouche la parole de Dieu. Et que cet homme s'approche des pêcheurs et s'installe même, carrément, dans la barque de l'un d'eux, appelé Simon. Mais Simon n'est pas au bout de ses surprises, car voilà désormais que ce prédicateur lui demande le prix, plutôt, hein, c'est vraiment le sens du texte, le prix de remettre l'embarcation à la mer et de s'éloigner quelque peu du rivage. Et comme si ça ne suffisait pas, le voilà qui s'assied et se met à enseigner toute la foule depuis cette position. La foule restait à terre. Alors une petite parenthèse, pour quelle raison Jésus éprouve-t-il le besoin de s'éloigner de la foule pour s'adresser à elle ? Et pourquoi va-t-il sur l'eau dans cette barque ? Paradoxalement, pour être mieux entendu. S'il était resté sur la rive du lac, au milieu de la foule, seuls les plus proches auraient entendu son message et les corps auraient fait barrage au son et donc absorber le son de sa bouche. Et en d'autres circonstances que ce lac-là, il se plaçait sur une hauteur et pour la même raison. S'il s'était éloigné, la foule se serait rapprochée. Et donc, c'est une raison pour laquelle il trouve le moyen ainsi de mettre de la distance entre lui et la foule. Et puis, il y a une autre raison, je me suis un peu renseigné sur ce point. Le son se propage beaucoup mieux à la surface de l'eau. Lorsqu'elle n'est pas agitée, elle fait miroir et le son se réverbère à la surface de l'eau et porte beaucoup plus loin, un phénomène qui se remarque particulièrement bien au bord des lacs, dans le silence de la nuit. Alors, on perçoit assez distinctement, et c'est une expérience que j'ai vécue, sur des lacs de montagne, avec un peu grand, lorsqu'il y a des villes à l'opposé, les bruits de la ville qui est à l'opposé du lac vous parviennent assez distinctement. Donc Jésus recherche là le moyen d'être entendu de tous. Mais il y a encore une autre raison. Jésus cherche aussi Simon. Il a un message pour toute la foule et manifestement ce message répond à un besoin puisqu'elle reste là, l'écouter sur le rivage. Mais il a un message particulier pour Simon, un message qui pour le coup ne répond pas à une attente exprimée par Simon. Quand Jésus est apparu avec cette foule autour de lui, il ne s'est pas approché. Et on peut imaginer qu'il a très probablement levé les yeux pour observer ce qui se passait, mais il ne s'est pas apparemment interrompu pour autant dans son travail. Une question peut se poser. Simon, à ce moment-là, connaît-il Jésus? L'a-t-il déjà rencontré? A-t-il seulement entendu parler de lui? Alors, dans le chapitre précédent, nous voyons Jésus se rendre au chevet de sa belle-mère pour la guérir d'une forte fièvre. Oui, mais voilà, dans les évangiles de Marc et Matthieu, cette guérison intervient après cette rencontre au bord de l'eau. L'exactitude chronologique n'est pas la préoccupation première des évangélistes, et donc à deux contre un, et au regard de l'attitude détachée de Simon, je pencherai personnellement pour une première rencontre entre les deux hommes. Et même à supposer que Simon ait guéri précédemment la belle-mère de Simon en son absence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se précipite pas pour faire enfin sa connaissance, la connaissance de celui qui a accompli ce miracle, un miracle qui lui aurait forcément été rapporté. Il s'agit tout de même de sa belle-mère. Évidemment, nous n'irons pas jusqu'à le soupçonner d'en vouloir à Jésus d'avoir guéri sa belle-mère. C'était de l'humour, hein. Par contre, il semble plus probablement qu'il a entendu parler de lui. Jésus est dans la région depuis plusieurs jours. Les nouvelles vont vite dans le microcosme galiléen. Et au chapitre précédent, nous lisons que sa réputation a gagné toute la région. Il s'est fait remarquer dans une synagogue à Nazareth, sa ville d'origine, où il s'est présenté, à mots à peine voilés, comme celui en qui les prophéties s'accomplissaient sous les yeux des personnes présentes. Nous avons vu ce passage au début de notre série, et on a vu que Jésus a provoqué la colère et le rejet pour leur avoir reproché de ne voir en lui que le fils du charpentier, avec cette déclaration mal comprise et rentrée de manière détournée dans la sagesse populaire, nul n'est prophète en son pays. On dit que Jésus guérissait tous les malades et chassait de nombreux démons et que cela attirait beaucoup de monde. Et même si cela en cela, la chronologie diffère encore entre Luc d'une part et Matthieu et Marc d'autre part, il semble que Simon a au moins entendu parler de ce Jésus qui s'installe dans sa barque. Il n'est pas, à ses yeux, je pense, le premier venu. Et sans doute, je doute que Simon aurait laissé s'installer dans sa barque le premier venu, et encore moins aurait accédé à sa demande de s'éloigner du rivage. Et enfin, en appelant Jésus, comme on le voit ici, maître, on voit qu'il lui accorde une certaine autorité, un certain respect, très probablement renforcé par l'enseignement qu'il vient d'entendre de Jésus, donné depuis cette barque à la foule restée sur le rivage, enseignement d'ailleurs qui ne nous est pas parvenu. À ce stade, rien n'indique que le cœur de Simon soit touché. Pour cet homme de terrain, il en faut plus. Il faut du concret. Il va être servi. Mais avant d'en arriver là, Jésus émet une seconde demande, plus incongrue encore que la première. Aller un peu plus loin, là-bas, là où l'eau est profonde, et jeter les filets pour pêcher. Cette heure-ci, la pêche, ça ne marche pas. Et si nous qui connaissons le métier et le lac, qui sommes du métier et qui connaissons le lac comme notre poche, nous n'avons rien pêché la nuit dernière, c'est que le poisson n'était pas là, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien à prendre. Moi, je suis fatigué, j'ai juste envie d'aller me coucher. Et cependant, ayant exprimé son doute sur le résultat à attendre de cette tentative, qu'est-ce qui fait, Simon, qu'est-ce qui fait qu'il consent à céder à cette nouvelle demande ? Et je crois que la réponse tient en trois mots, sur ta parole. Sur ta parole. Un combat intérieur se joue en lui, que beaucoup d'entre nous ont vécu, et que peut-être parmi nous, plusieurs vivent aujourd'hui. Ignorer la parole de Jésus et passer son chemin, ou chercher à en savoir plus sur lui. Rester dans ce que je connais de la vie, de mon chemin, de ma carrière, de mon avenir, ou chercher, prendre le risque de mettre le doigt dans quelque chose dont je perçois quand même confusément le côté engageant pour toute ma vie. À ce stade, Simon accepte de faire un pas de plus avec Jésus. Alors avec Sylvain, on a convenu de faire une petite pause dans la prédication avant d'aller plus loin et de chanter un chant, « Mon ancre, soit ma voile ».
Tout ce que je suis.
On a chanté « Ta grâce m'appelle à lever les yeux et à suivre ton chemin ». Et je vous propose de reprendre notre lecture à partir du verset 6. Nous avons laissé Simon avec cette réponse. « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent, verset 6, et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent la barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Simon joint donc le geste à la parole. La scène du réembarquement ne nous est pas décrite, mais on peut l'imaginer sans grande difficulté. « Allez les gars, on y retourne. » On peut imaginer là aussi la tête de Jean et Jacques, ses associés selon cette traduction, ses compagnons selon d'autres traductions, et il semble qu'il y a encore d'autres personnes, compagnons ou employés. Et malgré cela, la décision prise par Pierre de suivre l'appel de Jésus ne semble pas créer de discussion, de remous au sein de l'équipe, et tout le monde réembarque, peut-être pas joyeusement, mais au moins de bonne grâce. Le miracle se manifeste dans la barque de Simon, celle où se trouve aussi Jésus. Et très vite, il faut appeler du renfort l'autre barque qui pêche à quelques encablures, car les filets commencent à se rompre. Et le contraste est saisissant entre toute la nuit de travail bredouille et cette abondance, cette débordance qui survient en quelques instants. La réaction de Simon en atteste, lui, le pêcheur de métier, habitué à l'alternance de jour avec et de jour sans, n'a jamais vu chose pareille. À lui et à ses compagnons, le butin de la vente de tous ces poissons, mais pas du tout, ni chez Simon ni chez ses compagnons, on ne voit de réjouissance, ce n'est pas la réjouissance qui prédomine dans cette prise, c'est la frayeur. La chose est bien trop extraordinaire pour être qualifiée de seulement exceptionnelle. On est dans l'impossible, l'inconcevable. Les lois de la nature sont dépassées. La réaction de Simon est de se jeter aux pieds de Jésus, en qui il reconnaît une dimension surhumaine. A-t-il conscience d'être en présence du Fils de Dieu ? Il semble que cette prise de conscience commence à cet instant, mais qu'elle culminera beaucoup plus tard par cette déclaration sous l'inspiration du Père, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Pour l'heure, Simon a surtout conscience de son indignité de pêcheur. Pêcheur au sens du péché, cette fois pas de la pêche. Pour un juif, un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Voir Dieu n'est possible qu'en étant mort. Et donc il demande à Jésus de s'éloigner de lui, afin de ne pas prolonger cette incohérence, cette incompatibilité de conditions. Et il faut toute la parole apaisante de Jésus pour le remettre debout. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Au moment où je me fais Connaître à toi n'est pas peur. À l'heure du choix, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'être baptisé en mon nom. N'aie pas peur de me suivre, d'obéir à mon appel et de prendre la parole en mon nom le moment venu. Et Simon n'est pas le seul à être impressionné. Les deux frères, Jacques et Jean, sont tout autant. Et sitôt revenu sur le rivage, nous a-t-il dit, ils laissent tout en plan et se mettent à la suite de Jésus. Tous ces poissons entassés dans les deux barques, peu importe. Le fruit de leur ventre, peu importe, ils le laissent à d'autres. Le miracle, à leurs yeux, a moins de valeur pour le bénéfice immédiat qu'il génère que par ce dont il témoigne. Cette pêche miraculeuse a moins d'importance pour le fait lui-même, aussi grandiose soit-il, que pour ce qu'il signifie. En Jésus, Dieu est là, avec nous, Emmanuel. La puissance de Dieu est là, avec nous. L'amour de Dieu est là, avec nous. Emmanuel, la bonté et la compassion sont là avec nous. Simon, lui, repart avec cette déclaration un peu énigmatique de Jésus. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Il n'y a pas de jeu de mots. Pêcheur, hein, le péché et pêcheur la pêche, selon aucune consonance commune en grec ni en araméen. Pêcheur d'hommes, c'est une image. Et il va se passer du temps avant que cette déclaration et sa première mise en œuvre se manifestent lors de la Pentecôte à Jérusalem. Et entre-temps, Simon aura vécu de nombreuses expériences avec Jésus, certaines exaltantes comme aujourd'hui, d'autres plus humiliantes. Lorsque Pierre affirmera plus tard, Simon devenu Pierre, reconnaître en Jésus le Messie, le Fils de Dieu, celui-ci lui fera une seconde déclaration, tout aussi prophétique et engageante. Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église. Pour le coup, là, il y a un jeu de mots en grec, en araméen, et nous avons également la chance de l'avoir en français. Pêcheur d'hommes. Alors attention, Jésus n'est pas en train de dire à Simon que toute la carrière de Pierre, devenu disciple puis apôtre, sera à l'image de cette pêche miraculeuse. On pourrait établir un certain parallèle entre cet appel initial sur le lac de Galilée et la Pentecôte à Jérusalem, entre les milliers de poissons entassés dans la barque et les 3000 conversions de la Pentecôte. Mais à côté de ça, combien d'heures de travail sans rien prendre ? Combien de tempêtes essuyées sur le lac ? Et sans même parler de la tempête, la solitude des compagnons dans la nuit et le froid. Tout le travail annexe aussi, qui est du temps passé, non pas à pêcher, mais qu'il faut bien accomplir pour être en mesure de repartir le lendemain. Excusez-moi, je dois me moucher. Le lavage et la réparation des filets, l'entretien du bateau. Je vous laisse le soin de mettre en parallèle ce à quoi peut correspondre ces exemples avec un ministère de pêcheurs d'hommes comme celui auquel Jésus destine Simon. L'entretien du bateau, je disais, les relations entre les compagnons, la cohésion de l'équipe, la vie de famille. Simon, s'il avait une belle-mère, c'est qu'il était pas célibataire. Et d'ailleurs, Paul fait allusion à l'épouse de Pierre dans l'Épître aux Corinthiens. Se restaurer aussi, se reposer pour reconstituer ses forces. Et on pourrait encore aller plus loin dans l'analogie. Vivre à contre-temps, en pêchant quand tout le monde dort. Aller là où l'eau est profonde, ainsi que le demande Jésus. Ce côté inquiétant, inconnu de cette eau qui est là, sous les pieds, tout autour de nous, sans vraiment savoir connaître tout ce qui est le peuple, tout ce qui la peuple, mais où on sait qu'il y a forcément des poissons ramenés à la surface. Accepter d'être débordé par le volume et le poids de la pêche. Accepter la tension excessive des filets, parfois jusqu'à la déchirure. Accepter de subir un dommage personnel pour prix de cette pêche. C'est vrai, le travail est plus facile, plus enthousiasmant, moins fatigant quand il porte du fruit, mais encore faut-il avoir accepté de jeter le filet là où Jésus l'a dit, dans ce coin du lac que nous pensions avoir déjà ratissé, ou au contraire qui ne nous inspire pas du tout, soit qu'il nous paraisse dénué de tout intérêt, soit qu'il nous rebute, voire nous inquiète. N'est-ce pas à Simon-Pierre qu'a été confiée la délicate mission de se rendre chez un païen, Corneille, de lui annoncer la parole qu'il avait entendue de la bouche de Jésus, en particulier ce jour-là, et en tant d'autres occasions, puis de le baptiser? Encore ce rapport entre le pur et l'impur qu'il avait tant effrayé en présence de Jésus. La désapprobation des autres apôtres à cette occasion de la visite de Corneille en témoigne. Le risque à prendre ne correspondait peut-être pas du tout à l'idée qu'il se faisait du ministère de pêcheur d'hommes. Ces hommes qu'il aurait à pêcher, même ces hommes-là. Oui, Pierre, même ces hommes-là. Il y a aussi de belles choses à vivre en tant que pêcheur. S'émerveiller quand la voûte étoilée s'illumine et dévoile un petit avant-goût de toute la beauté contenue dans le ciel. Assister au lever éblouissant du soleil sur le clapotis calme et paisible des eaux du lac. Ressentir la plénitude de la création, la grandeur du Créateur et le soin qu'il a apporté à la moindre de ses œuvres. Mais accepter aussi que des nuages cachent les étoiles, que la navigation devienne plus difficile, plus hasardeuse. Accepter d'embarquer quand l'eau et le ciel se confondent dans un noir d'encre. Gardez toujours en tête qu'il y a et qu'il y aura toujours du poisson à prendre. C'est juste qu'on ne sait pas où il est, ni à quelle profondeur il faudra aller le débusquer. Un lieu qui donnait bien hier ne donne rien aujourd'hui. Il faudra revenir un peu plus tard. Une technique qui fonctionne bien à telle période de l'année ne fonctionne pas le reste du temps. Il faudra sans cesse s'adapter, engranger de l'expérience, se renouveler, se remettre en question. Je vous laisse toujours faire le parallèle avec le ministère de pêcheur d'hommes. Simon avait besoin de paroles imagées pour comprendre ce que Jésus attendait de lui, pêcheur d'hommes. Pierre est sur cette pierre, la vision des animaux impurs. Jésus a touché Simon en le rejoignant sur son terrain, dans sa barque, dans son quotidien. Comme Simon aurait lui-même à le faire avec les disciples à la Pentecôte, en parlant à chacun selon sa langue, en parcourant les rues de Jérusalem, comme on le voit dans les Actes, la Judée, la Samarie, lors de visites privées à Lydde, à Jaffa, à Césarée, chez Corneille. Et voilà le ministère particulier de Simon, devenu Pierre, différent, mais complémentaire de celui de Saul, devenu Paul, qui annonçait l'Évangile, lui, dans les synagogues, discourait dans les lieux publics, devant les autorités, devant des rois. Mais Jésus n'envoie pas Simon seul au devant de cette pêche incongrue avant qu'elle devienne miraculeuse. Il monte dans la barque avec lui. Il sera présent même lorsque la tempête fera rage, et son profond sommeil mettant en évidence qu'il met lui-même en application sa recommandation de ne pas avoir peur. C'est de nous-mêmes, c'est ce qu'apprendra Simon, il faut redouter la défaillance, Il en a fait l'amère expérience, sans doute comme chacun d'entre nous. Et s'agissant de Jésus, il nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Sur ta parole, je jetterai les filets. N'aie pas peur. Amen.